Alors nous allons aborder aujourd'hui les deux premiers aphorismes de ce livre. Nous avions lu dans les séances précédentes les deux pages de la préface. On peut revenir sur cette préface pour des questions si vous en avez. Je fais l'une ou l'autre remarque pour nous rappeler les choses. Je dirais d'abord que cette seule page qui nous a un peu retenu montre tout à fait clairement la difficulté de la lecture des textes nietzschéens. Parce qu'après tout, le lecteur rapide, le lecteur non averti, peut se demander ce qu'on lui raconte dans cette affaire, puisqu'il n'y a aucun raisonnement, aucune déduction, aucune argumentation qui nous permettrait de rentrer plus ou moins dans une série d'affirmations. On nous assène dès le début que la vérité est femme, et évidemment la réaction du lecteur, c'est de dire quel est ce vieux macho qui n'a rien compris à rien et qui compare de manière méprisante la femme à la vérité. Et jamais, en effet, on ne va trouver, à proprement parler, de justification, d'explication, de retour en arrière sur des affirmations qui sont un peu massives comme celle-ci, mais c'est ainsi dans le texte nietzschéen. Donc on voit bien la grande difficulté de ne pas passer trop vite sur des choses qui sont choquantes, qui ne sont affirmées sans beaucoup de, encore une fois, de raisonnement. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle j'essaie de faire un commentaire en reprenant d'autres textes. Parce qu'au fond, la pensée nietzschéenne se construit par petits bouts, par éléments qui se complètent comme une construction. On ajoute un pan, on apporte un élément de contradiction, mais il faut avoir en tête un peu le corpus nietzschéen, et je m'en tiens de manière un peu systématique, simplement au livre que nous lisons, mais on pourrait citer bien d'autres textes qui iraient à peu près dans le même sens, mais à peu près et pas tout à fait. Alors, ça montre la difficulté de la lecture de Nietzsche, je dirais par contre-coup, sans vouloir tirer la couverture à moi, ça montre l'intérêt aussi du cours d'introduction à cette pensée, pour se familiariser peu à peu à cette démarche, en effet, un peu surprenante. Alors, en réalité, je retiens deux ou trois choses de cette préface. L'idée de vérité, la vérité est femme, n'est pas du tout du mépris pour la femme, je dirais tout au contraire, pas plus que pour la vérité. L'affirmation majeure tout au long du corpus nietzschéen, c'est que précisément la vérité ne se laisse pas prendre, ne se laisse pas posséder, qu'elle ne se donne pas d'un coup. La femme qui se donne sans préavis et sans recherche, c'est une prostituée qu'on obtient par de l'argent. Donc pour séduire une femme, il y a toute une stratégie, tout un jeu, toute une ruse qui est à mettre en place. Et donc la femme pudique ne se dévoile pas si facilement. Ça ne veut pas dire que la vérité prise pour femme ne peut pas être connue. Ça veut dire qu'il faut éviter l'illusion de croire, nous allons retrouver dans les premiers paragraphes, qu'on la connaît trop vite. Ou l'affirmation fondamentale, c'est que la vérité nous échappe toujours. Même une femme qui se donne, ou on pourrait dire un être humain, reste toujours mystérieux. Croire qu'on le connaît, qu'on a connu par transparence ce qu'il en est, c'est aux yeux de Nietzsche une immense erreur. Bon, donc on a déjà là un élément très important sur la notion de vérité. Nietzsche ne récuse pas du tout cette notion, simplement il nous appelle à la prudence, il nous appelle à ne pas croire qu'on l'a possédée trop vite. Alors, on pourrait aussi retenir de ce paragraphe, de cette préface, que dans l'Occident, les deux grandes tentatives de finalement de prétendre à la vérité, c'est d'un côté le platonisme et de l'autre côté le christianisme. On pourrait dire qu'en effet, ce sont les deux grandes cibles, les deux grands ennemis, comme Nietzsche se plaît à le dire, de la pensée nietzschéenne. Alors, en même temps, ces deux moments philosophiques et théologiques ne sont pas à négliger du tout, parce qu'ils représentent des tentatives extraordinaires de domestication de la vérité. Ils ont été, par conséquent, de ces monuments, peut-être monstrueux par certains côtés, mais éminemment respectables par d'autres. D'autre part, il faut bien voir qu'aux yeux de Nietzsche, aussi bien le platonisme que le christianisme, qui sont chez lui très liés, quoique non confondus, ont façonné l'homme européen. par la discipline ecclésiastique, d'un côté, et par le souci de la vérité chez Platon, de l'autre. Platon, nous dit-il dans un grand texte du Gai Savoir, 344, a allumé ce feu de la vérité qui continue à flamber dans la recherche scientifique actuelle. C'est-à-dire on cherche la vérité à tout prix et on veut obtenir la vérité à tout prix. Bon, ça fait partie de l'éthos européen et le christianisme fait espérer aux hommes salut éternel, une vie éternelle, etc., bien au-delà des difficultés de la vie présente. Donc ces deux lignes de pensée ou de théologie religieuse ont évidemment forgé l'âme européenne. Le problème, c'est que désormais, cette immense tentative sont mises en cause. Alors, on pourrait dire d'abord que Nietzsche ne va pas dans la perspective d'un rationalisme un peu plat, qui consisterait à dire bah, tout ça, c'était des illusions, des superstitions, il faut absolument s'en débarrasser, parce que l'humanité étant devenue adulte, eh bien, on n'a plus besoin d'avoir des langes, donc on fait un grand coup de chapeau au platonisme, au christianisme, les remerciant de nous avoir fait ce que nous sommes, mais en même temps, tout ça est mort et ne sert plus à rien, il faut même s'en débarrasser. L'idée de Nietzsche, c'est que ça a formé l'homme européen, et que le grand problème, c'est que toute cette énergie assemblée, que va-t-elle devenir maintenant que le but manque ? C'est-à-dire que nous avons le soupçon sur les fins de l'histoire, sur la vie éternelle, etc., et même sur l'idée de vérité. Et donc, est-ce que nous ne risquons pas d'aboutir à une catastrophe que Nietzsche appelle le nihilisme, c'est-à-dire cette volonté de vérité qui ne trouve plus de matière, est-ce qu'elle ne va pas se détendre comme un arc trop tendu et fatigué se détend? Alors, il met en cause, nous l'avons vu rapidement, ce qu'il appelle le jésuitisme. Moi, je dirais c'est un peu le relativisme moderne, l'idée qu'après tout, bon, on peut négocier toujours les choses, on peut trouver des compromis, qu'il n'y a pas de vérité absolue. Et de l'autre côté, la philosophie des Lumières, disons plus exactement la démocratie, et que nous retrouvons dans beaucoup de textes. Comme vous savez, Nietzsche est extrêmement sévère sur la démocratie. D'abord parce que c'est une pensée aristocratique, mais aussi parce que, et nous le voyons bien ici indirectement, la démocratie nous laisse croire que tout est facile, enfin, qu'il n'y a pas d'effort à faire. J'ai mes droits, je les fais valoir, j'ai ma carte vitale, ça c'est pas un exemple nietzschéen, mais c'est moi qui le prends, je vais chez le pharmacien, j'obtiens sans payer, je ne sais même pas le prix des médicaments, à peu près tous les médicaments que je veux. Donc voilà, ça ne coûte rien à personne, du moins c'est ce que je pense, ce qui est évidemment une illusion majeure. Voilà, c'est la facilité. Mais il y a d'autres textes très forts dans le Crépuscule des idoles pour dire la liberté démocratique, nous l'avons, elle est même consignée sur nos mairies, donc on n'a plus à se battre pour la liberté. Ça c'est le pire danger pour Nietzsche, ne plus avoir à se battre pour la liberté, elle est là. Pas besoin de se battre. On pourrait dire la même chose pour l'Europe, n'est-ce pas ? L'Europe est là, bon, on peut aller de Lisbonne à Cracovie sans problème, donc c'est acquis. On n'a plus à la défendre. Ben voilà qui provoque un affaissement. Si je n'ai plus à la défendre, ben elle va être compromise par n'importe qui ou n'importe quoi. Donc il n'y a plus de tension. Et on pourrait dire que la philosophie de l'avenir de Nietzsche, c'est une philosophie qui voudrait redonner un but. Non pas un but extérieur, mais que l'homme se veuille enfin lui-même. Des mille et un buts, c'est un des grands chants du Zarathoustra, le but, c'est que l'humanité ne s'est jamais voulue elle-même. Elle a voulu la vie éternelle, elle a voulu le progrès, elle a voulu la société sans classe et sans état, elle a voulu tout ce que vous voudrez, le bien, mais l'homme ne s'est jamais voulu lui-même. Alors, ce n'est pas du pronométhéisme, nous aurons l'occasion d'y revenir, mais c'est quand même une affirmation forte qui doit débarrasser, en principe, l'humanité de ses illusions auprès desquelles elle court toujours, sans réussir à les réaliser. Bon, je rappelle donc deux ou trois points, si vous aviez des interrogations sur ces deux petites pages, elles sont bienvenues. Oui.
Comment se fait-il qu'il considère que le platonisme et le christianisme et qu'il ignore volontairement les hégéliens, qui est pourtant des ambitions théologiques aussi grandes?
Ah, il parle quelquefois de Hegel. Comme je vous ai dit, hein, ça n'est pas un rat de bibliothèque, ce n'est pas un philosophe de métier, c'est un philologue grec. Donc, il a été très marqué par la philosophie grecque, les présocratiques, et évidemment Platon. Ce qui est le plus curieux, c'est qu'il parle très rarement d'Aristote. Non, c'est de Platon. Et d'autre part, il ne faut pas oublier quand même qu'il est d'une famille protestante, qu'il a été lui-même chrétien, donc l'autre grande référence, c'est évidemment le christianisme. Je crois que c'est par rapport à sa vie qu'il faut comprendre. Ce n'est pas un homme de bibliothèque qui aurait devant lui toute la panoplie des auteurs et qui les citerait les uns après les autres. Et comme il le dit toujours, il parle de son expérience. Or, son expérience personnelle, c'est la pensée grecque, les tragiques, et Platon, et c'est le christianisme. Donc, ça fait partie de sa singularité, on peut dire en effet de sa partialité, mais je crois que ça prend comme tel, parce que Hegel, il le cite de temps en temps, mais on ne peut pas dire qu'il le connaisse. Non, c'est Schopenhauer, j'en parlerai la prochaine fois, qui est un peu sa référence. De Hegel, il ne connaît pas vraiment, je crois, on peut dire ça. Malgré tout ce que nie Deleuze, pour Deleuze, Nietzsche est tout entier dressé contre Hegel. C'est de la fantaisie. Enfin, ça fait plaisir à l'universitaire qui est de Gaulle, qui est Deleuze, de dire, voilà, il a... Ouais, en réalité, non. Non, il est antisystématique au sens hegelien, mais il ne connaît pas Hegel. Mais c'est comme ça, ce n'est pas un reproche, c'est comme ça. Ce qu'il sent, c'est sa propre maladie, c'est sa propre vie, c'est son expérience personnelle, et c'est de ça dont il nous parle. De point de vue-là, il est singulier, ce n'est pas un philosophe, c'est pas ce qu'il appelle un ouvrier scientifique de la philosophie. Vous avez un très beau texte là-dessus, dans ce même livre, sur les ouvriers scientifiques de la philosophie, ceux qui épinglent chacune des pensées. Lui, c'est pas ça, non, c'est Platon et le christianisme, le christianisme de Saint Paul. Est-ce que je réponds à la question? Non. Oui. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions, on s'engage dans cette première partie. Alors, comme vous avez remarqué, il y a dans ce livre une huitaine de chapitres. Il me semble qu'on ne doit pas s'attacher beaucoup à ces têtes de chapitre. La première partie s'intitule « Des préjugés des philosophes » et effectivement, il va surtout s'en prendre aux philosophes. Mais dans les autres parties, sur la religion, etc., il y a beaucoup de choses diverses. La raison en est que ces textes n'ont pas été écrits de manière continue et systématique, donc il n'a pas voulu faire un livre. Comme je l'avais dit à la première séance, il écrit tout en marchant, et donc il a des pensées diverses qu'il rassemble un beau jour, sous un titre qui fait un peu parapluie, mais il n'y a pas de systématisation derrière ça. Donc, on va discuter dans cette partie des préjugés des philosophes, mais enfin, dans les autres parties, il y a beaucoup d'autres choses diverses, et il ne faut pas trop presser, je dirais, les titres. On pourrait dire que cette première partie est essentiellement négative, comme d'ailleurs le titre le suggère, c'est-à-dire que Nietzsche va beaucoup moins énoncer sa propre position philosophique qu'il ne va dénoncer ce qu'il appelle les préjugés de la philosophie dogmatique en particulier, et c'est seulement en filigrane qu'il va annoncer, de manière d'ailleurs très floue, ce fameux philosophe de l'avenir qu'il a déjà évoqué dans le sous-titre et dont nous avons déjà un petit peu parlé. Philosophe de l'avenir dont on ne sait pas bien qui il sera, c'est un peu une ombre, c'est évidemment la philosophie nietzschéenne, mais on ne sait pas très bien de quoi il s'agit. Je prendrai le dernier paragraphe, le paragraphe 23 de cette première partie, tout à fait à la fin. C'est l'idée de s'interroger, finalement, sur la volonté et la volonté qui veut. Si votre vaisseau, alors il interpelle ici son lecteur, est venu s'échouer sur ces parages de la pensée nietzschéenne, alors courage, serrez les dents, ouvrez les yeux et tenez ferme la barre. Nous cinglons tout droit au-delà de la morale, nous étouffons, nous écrasons peut-être du même coup ce qui nous reste de moralité en osant mettre le cap sur le large. Mais qu'importe notre destin. Jamais un monde de connaissances plus profondes ne s'est ouvert à la hardiesse des navigateurs et des aventuriers. Et le psychologue, donc Nietzsche se veut psychologue, je l'avais dit le jour, et nous le retrouvons dans son analyse de la volonté, qui se sacrifie de la sorte, entre guillemets, il ne s'agit pas d'un sacrificio dell'intelletto, dans le sacrifice de l'intellect, aura au moins le droit de réclamer en échange que la psychologie retrouve son statut de science maîtresse que toutes les autres sciences ont pour tâche de servir et de préparer. Car désormais, la psychologie est redevenue le chemin qui conduit aux problèmes essentiels. Alors, ça veut dire quoi ? La psychologie, c'est l'étude de la volonté. C'est l'étude de la volonté. Et Nietzsche, en fidélité à son maître Schopenhauer, et je dirais en préparant finalement les perspectives freudiennes, va sonder, faire une généalogie de la volonté. C'est-à-dire essayer de voir ce qui se cache dans la volonté qui veut. Et c'est pourquoi la psychologie devient le centre des questions essentielles. Qu'est-ce que je veux quand je veux ? Ben, croire en Dieu, croire au progrès, croire à la bonté des hommes, croire... Qu'est-ce que je veux quand je veux ça ? Ouais. Donc, on peut... Voilà le coup de marteau de la critique. Quelle que soit la question qu'on pose, la question nietzschéenne, c'est de dire, d'accord, vous voulez le progrès, vous voulez la concorde entre les hommes, vous voulez la paix, mais qu'est-ce que vous voulez au juste quand vous voulez la paix ? Quel est le désir qui est en vous, qui veut la paix, le progrès, la concorde, etc. Donc, la critique va porter sur, par une affirmation pour faire jaillir une autre possibilité de philosophie. L'affirmation, c'est « nous savons ce que c'est que la vérité. Nous voulons la vérité. Êtes-vous sûr, demande Nietzsche, de savoir au juste ce que vous voulez quand vous dites que nous voulons la vérité ?» Alors, le préjugé, il est, je le résume rapidement, mais nous aurons à tisser là-dessus, il est quadruple, en quelque sorte. On va mettre en cause, c'est ça le coup de marteau, et c'est ça ce qui pour Nietzsche est nouveau, on va mettre en cause ce qui est admis jusqu'ici sans qu'on le discute. Le préjugé des philosophes, c'est des idées qu'on tient pour acquises et dont il est même inutile de chercher à les soupçonner. Donc on soupçonne au contraire, dans la perspective nietzschéenne, qu'il y a matière à discussion. Alors, ce préjugé, ce qu'on juge en quatre modalités, d'une part, ce préjugé suppose que la vérité est, qu'il y a quelque part quelque chose comme la vérité. Ça suppose qu'on peut trouver une vérité pure, sans mélange, avec ce qui ne serait pas elle. Donc, l'idée, c'est que non seulement la vérité est, mais qu'elle peut être découverte dans sa nudité, dans sa pureté, sans aucun mélange. Le troisième préjugé, c'est que, bien entendu, il vaut la peine de chercher la vérité, que toute tentative de la chercher vaut la peine, et même qu'on peut se sacrifier, je renvoie à nouveau au paragraphe 344 du Gai Savoir, on peut se sacrifier pour la chercher la vérité, que ça vaut la peine. Et donc, quatrième préjugé, que c'est possible. Voilà, me semble-t-il, ramasser les quatre préjugés. Il y a une vérité. Cette vérité peut être atteinte de manière totale, absolue, pure. Ça vaut la peine et c'est possible. Voilà. Alors, on peut en venir au premier paragraphe que je vais lire en changeant quelque peu la traduction, quoique bonne, de la collection de Montinari et Colli. La volonté de vérité, Wahrheit en allemand, pas du vrai, la vérité, qui nous entraînera encore dans nombre d'entreprises périlleuses. Cette célèbre véracité dont jusqu'ici tous les philosophes ont parlé avec vénération, que de problèmes nous a-t-elle déjà posé ? Quels étranges et inquiétants problèmes, pleins d'équivoques. C'est déjà une longue histoire, et pourtant, semble-t-il, elle vient tout juste de commencer. Quoi d'étonnant que finalement nous devenions méfiants, que nous perdions patience et nous détournions excédés. Ce sphinx ne nous apprend-il pas, à nous aussi, de notre côté, l'art d'interroger ? Qui est-ce proprement qui nous pose ici des questions ? Qui est-ce ? Qu'est-ce qui proprement, en nous, veut la vérité ? Qu'est-ce qui, en nous, veut la vérité ? De fait, nous nous sommes longuement attardés à nous interroger sur la cause de ce vouloir, jusqu'à ce que finalement nous nous trouvions tout à fait en plan devant une question encore plus fondamentale. Nous nous interrogions sur la valeur de ce vouloir. Étant admis que nous voulons la vérité, pourquoi pas plutôt la non-vérité et l'incertitude, voire l'ignorance? Le problème de la valeur de la vérité s'est dressé devant nous. Où sommes-nous allés au-devant de ce problème? Qui de nous est Édipe ici, le sphinx, Édipe, référence grecque et égyptienne? Qui est le sphinx? C'est là, semble-t-il, un nœud de questions et de points d'interrogation. Et le croira-t-on, nous finissons par penser que le problème n'a jamais été posé jusqu'à présent, que nous sommes les premiers à le voir, à le tenir sur notre regard, à risquer de le regarder, car il comporte un risque, et peut-être n'est-il pas de plus grand. Bon, vous voyez toujours aussi l'ambition, qu'on peut trouver en effet excessive, on n'a jamais posé la question jusque-là, mais nous allons quand même la poser. Alors, qu'est-ce qui est affirmé, me semble-t-il, là-dedans, si on essaie de pénétrer un peu ce labyrinthe et de déchiffrer le sphinx? Bon, vous voyez déjà l'idée du sphinx, c'est que on est devant une ambiguïté, on n'est pas devant la vérité nue. Bon, là, ce qui est affirmé, je crois, d'abord, c'est que, bien entendu, le problème de la vérité est ancien. Déjà, dans la tragédie grecque, Édipe, qui suis-je, qui sont mon père et ma mère, qu'est-ce que j'ai fait pour être aveugle, quel est le sens de ma vie, etc., etc. Bon. Donc on cherche la vérité déjà dans la tragédie grecque, et la réponse, la référence à Édipe est importante, la réponse de la tragédie grecque n'est pas drôle du tout. Et vous avez remarqué au début du texte et à la fin du texte la notion de risque. Chercher la vérité n'est pas sans risque. Chercher la vérité ne nous met pas sur une autoroute de tranquillité où tout est bien balisé et vous arrivez au bout de 150 km à destinée. Bon, Édipe, les tragiques grecs, la vérité, quand on la voit, quand Édipe la voit, il s'aveugle. Elle nous aveugle, la vérité. Mais ça, on ne veut pas le voir. On dit, non, bien sûr, il y a du risque, mais enfin, bon. Donc, la vérité, on l'a toujours cherchée, on l'a toujours vénérée, mais en même temps, il faut bien voir que ça a été un problème, et que c'est pour Nietzsche, en tout cas, un problème douloureux, risqué et dangereux. C'est en ce sens, me semble-t-il, qu'il est nouveau. On a toujours posé le problème de la vérité, et Nietzsche n'échappe pas à cette interrogation. Simplement, désormais, on s'interroge, qu'est-ce que je veux quand je veux la vérité? Alors, à ses yeux, c'est la question nouvelle, et je le dirai la prochaine fois à propos de Schopenhauer, je crois que ça n'est pas totalement tort. Alors, on s'interroge sur la vérité, non pas par refus de la vérité, non pas par méfiance, non pas parce qu'on perdrait patience, même s'il le dit, ça nous agace, donc on voudrait tout de suite aller au but, mais il s'agit bien d'un tournant qui consiste à exhumer les préjugés qui sont enfouis sous la question. Sous la question. D'où une nouvelle manière de poser la question, et la référence au sphinx, je crois, est tout à fait vitale, parce que le sphinx, il barre la route. Il empêche d'aller plus loin. Et c'est un monstre, le sphinx. C'est un monstre, à tête de lion, à corps de femme, etc. On le retrouve un peu aussi dans le Zarathoustra. Et le sphinx, il pose une question qui n'est pas banale. C'est une question de vie et de mort. Donc, voilà le risque. Dans la vérité, on ne joue pas des pécadilles, n'est-ce pas? On est devant le tout ou rien. Est-ce qu'il y a de la vérité? Est-ce qu'on peut l'atteindre? Ou non? Ben, s'il n'y en a pas, c'est le non-sens, c'est l'absurdité. Il n'y a plus qu'à se flinguer. Nous verrons, Schopenhauer, c'est tout à fait ça. Donc, la question du sphinx n'est pas une petite question marginale, c'est une question absolument centrale. La question de la vérité est une question vitale. Vitale. Donc, remarquons le déplacement, ce n'est pas simplement une question de connaissance, c'est une question de vie. Alors, c'est là, me semble-t-il aussi, qu'on peut remarquer une transformation opérée par cette position, c'est que la vérité est énigmatique. Elle pose des questions. Et il faut qu'elle pose des questions avant qu'elle réponde. Or, souvent, nous avons la réponse avant la question. Il faut poser la question, séjourner dans la question. C'est ce que montre le symbole du sphinx. Donc, la référence au sphinx ne pose pas seulement une question dont on aurait un beau jour la réponse, cette question va nous transformer nous-mêmes. C'est une question qui nous est posée à nous. Donc ce n'est pas une question abstraite, objective, de connaissance, c'est une interrogation qui porte sur l'interrogateur lui-même. C'est l'interrogateur qui est le lieu de la question et éventuellement de sa réponse. Au fond, qui suis-je et qu'est-ce que je cherche, moi qui suis en quête de la vérité? Autrement dit, la question, c'est moins la question de la vérité en elle-même que de savoir pourquoi je veux la vérité et à quelles conditions je pourrais m'ouvrir à la vérité. Et donc, comme souvent chez Nietzsche, la question, c'est celle du désir de la vérité. Quel est le désir qui anime mon vouloir de la vérité? Je dirais, voilà la question de la généalogie. Qu'est-ce qui veut dans ma volonté? Ou si vous voulez, quel est le désir qui anime ma volonté quand je veux la vérité? Et donc, on voit tout de suite que la question de la vérité n'est pas seulement une question de spéculation philosophique ou scientifique, mais on pourrait dire que c'est une question existentielle, puisqu'elle se retourne sur celui qui la pose. Et, me semble-t-il, c'est là qu'on retrouve l'aspect douloureux et risqué. Évidemment, tant que je cherche une vérité, je ne sais pas quoi, moi, quelle est la capitale de tel pays africain, bon, ça ne me concerne pas beaucoup, et je peux trouver dans un dictionnaire, ou en faisant un atlas, cette vérité, ça ne me touche pas. Mais quand il s'agit de questions de vie et de mort, c'est une question douloureuse, parce que la réponse va m'atteindre de plein fouet. Donc, elle va me mettre en question. Selon la réponse ou l'absence de réponse, je vais être mis en cause. Alors, je crois qu'on a là, me semble-t-il, une originalité de la perspective nietzschéenne, que je voudrais indiquer rapidement. Elle est typique d'une certaine modernité philosophique. Nous voyons bien dans cette perspective que est mise en cause, je ne dis pas récusée, mais est transposée la réponse classique de la vérité qu'on trouve chez Aristote ou chez saint Thomas, à savoir l'adéquation de l'intellect, ou l'adéquation de la chose pensée avec de la pensée avec la chose pensée. Une adéquation donc entre ce que je pense et la réalité de ce qui est pensé. Donc une sorte d'adéquation intellectus et rei. Donc une adéquation avec un objet qui est un objet à délimiter et à bien circonscrire. On pourrait penser ici évidemment à Descartes. Descartes aussi poursuit les préjugés, poursuit les superstitions, poursuit les illusions. Mais finalement, il s'agit de découvrir une pensée adéquate à la certitude. Cette position classique, elle est recherche qui met en cause non seulement l'aptitude du sujet à connaître la vérité, c'est-à-dire l'aptitude qu'a l'intellect à être adéquat à la chose, elle interroge le pouvoir de l'entendement à critiquer lui-même. Alors on pourrait dire que chez Descartes, on a un premier niveau d'interrogation. Il s'agit que l'intellect soit suffisamment net et pur de lui-même pour être adéquat à la chose. Donc il y a une recherche sur le sujet. Mais on pourrait dire qu'avec Kant, on s'interroge sur le pouvoir de l'entendement à critiquer. Critique de la raison pure. Est-ce que, on est déjà un peu sur le terrain nietzschéen, à quelles conditions de possibilité atteint-on la vérité? Mais la référence kantienne relève de l'entendement. Est-ce que j'applique les catégories de l'entendement de manière sensée à ce qui est, ou est-ce que je sors du domaine de validité des catégories de l'entendement et je divague, comme la colombe qui se croit plus libre parce qu'elle n'est plus dans l'air? Alors, quand il s'agit de connaître des réalités phénoménales, nous dit Kant, nous avons des catégories de l'entendement qui nous permettent de comprendre ce qui est. Et le sujet doit se critiquer lui-même, et il le peut, par l'œuvre de la raison, en sachant dans quel domaine il applique ces catégories de l'entendement. Et il doit savoir aussi que quand il sort du domaine de la phénoménalité, c'est-à-dire quand il touche au problème de la morale ou de la métaphysique et de la religion, la raison ne peut plus rien dire. Parce que les catégories de l'entendement valent dans le domaine précis du champ sensible. Ailleurs, c'est autre chose. Ce sera la volonté pour la morale, ce sera l'espérance dans le cas de la religion. Bon, donc on a déjà une critique du sujet, des deux côtés. Critique du sujet, mais du côté de Kant, en se maintenant du côté de l'entendement. À quelles conditions puis-je éviter le dogmatisme? Et Kant, je l'avais dit déjà l'autre jour, est furieux contre le dogmatisme, mais son dogmatisme, c'est pas seulement celui des théologiens, c'est aussi celui des scientifiques, qui, à partir de leur expérience phénoménale, en tirent des conclusions sur la non-existence de Dieu, sur la non-existence de l'âme, etc. Alors que pour Kant, ils ont tout à fait raison d'expliquer les phénomènes astronomiques ou autres. Ouais, ils n'ont strictement rien à dire sur ce qui échappe à leur prise. Ça, c'est une leçon qu'on pourrait toujours adresser à un certain nombre de scientifiques qui, à partir d'une expérience limitée, croient pouvoir se prononcer, on l'entend tous les jours à la radio, à la télévision, sur les questions ultimes, pour ne rien dire de leur position politique, où ils n'ont pas plus de compétences, peut-être même quelquefois moins, que le citoyen moyen. Bon, ça, c'est la position kantienne, et je crois qu'elle est très forte. La position nietzschéenne, c'est d'interroger la volonté du sujet. C'est d'interroger la volonté du sujet. Pourquoi est-ce que... Alors, ça, c'est une question qu'il adresserait à Kant. Pourquoi limiter la connaissance à tel domaine? Pourquoi la limiter au phénomène sensible? En quoi cette volonté de vérité est-elle fondée? En supposant qu'ailleurs, elle n'est que postulée. Pourquoi, au fond, cette démission de la pensée au-delà du phénomène? Mais la question, je crois, nietzschéenne par essence, c'est pas celle de l'objet, c'est celle du vouloir. Pourquoi je veux la vérité et seulement la vérité et non pas la non-vérité? Quel est ce désir de pureté de vérité? Donc on passe, et c'est là, me semble-t-il, le basculement, d'une perspective qui s'interroge sur l'aptitude de l'entendement à connaître à une interrogation sur la volonté qui veut la vérité. Qu'est-ce que je veux quand je veux la vérité? Pourquoi je veux la vérité plutôt que le non-vrai? Et nous allons voir que la grande interrogation va être, après tout, est-ce que le non-vrai... Ce sera les premiers paragraphes, le second paragraphe. Est-ce que le non-vrai ne serait pas aussi nécessaire que le vrai? Est-ce que je peux accéder au vrai sans passer par le non-vrai? Pourquoi vouloir éliminer le non-vrai d'une démarche sans laquelle il n'existe pas? Bon, on va revenir là-dessus dans le paragraphe 2. Alors, je dirais que ce premier paragraphe, assez court, il y a une première partie que je viens rapidement de survoler. Et à partir nous nous sommes longuement attardés à nous interroger, je dirais qu'il y a au fond un second versant de cette pensée. On passe à un autre niveau, en effet, quelle est la question? Alors, il y a une double question, me semble-t-il, dans ce deuxième paragraphe. D'abord, une interrogation concernant la cause de la volonté. Et une interrogation, alors cette fois typiquement nietzschéenne, concernant la valeur de cette volonté. Bon, il y a d'abord une interrogation qui est très intéressante sur la cause de la volonté. La position rationaliste classique, c'est d'expliquer la volonté de croyance, par exemple, ou la volonté au bien, par autre chose qu'elle-même. C'est-à-dire que la critique rationaliste sait mieux que le sujet lui-même ce qu'il en est de son cas. C'est, par exemple, on va vous expliquer que si vous êtes croyant, c'est parce que vous avez eu une enfance déterminée par l'islam ou le catholicisme, parce que vous restez attaché à votre mère, etc. C'est-à-dire par des préjugés que vous n'avez pas analysés. Mais si vous les analysiez, vous dissoudriez la croyance qui est en vous. Vous apercevriez que vous la croyez pour des causes mauvaises. Vous croyez que vous vous consacrez au progrès comme scientifique ou à l'avènement du royaume de Dieu comme croyant, mais si on fait une bonne analyse des choses, vous apercevez qu'en réalité, ben vous restez attaché à votre mère, vous restez attaché à des préjugés. C'est une attitude que Nietzsche a caressée au moment de Humain trop humain, où il parle dans le premier paragraphe, je vous y renvoie, à une chimie des sentiments et des idées. C'est le premier paragraphe du Humain trop humain, une chimie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à une analyse chimique, au fond, défaire le paquet des croyances. C'est pas à peine de l'acide sulfurique sur votre condensé de foi au progrès ou à la science, et on va le dissoudre. Vous voyez, si vous croyez, c'est parce que il y a une cause décelable, le déterminisme scientifique, sur lequel Nietzsche, évidemment, s'interroge grandement. Parce que vous voyez bien que c'est une interrogation qui a beaucoup dominé dans la philosophie rationaliste, et notamment en matière religieuse. C'est un peu la position scientiste par certains côtés de Freud, mais celle qu'on trouve chez beaucoup d'autres, on va démontrer et affirmer la fin d'une illusion. C'est le titre d'un livre de Freud. C'est-à-dire que au fond, la religion, la croyance à un au-delà, à des divinités, à toute espèce de mythologie, c'est une affaire d'enfance. Vous avez besoin, comme l'enfant a besoin, qu'on le guide. Mais à partir du moment où il est adolescent, il envoie balader les béquilles, les langes et la poussette, et il marche tout seul. Voilà la critique, disons, rationaliste classique de la religion. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que Nietzsche n'adhère pas, sauf peut-être un peu dans Humain trop humain, à ce genre de considération. Et je crois que c'est très important pour nous. Il ne dit pas, on va pouvoir faire une chimie de vos représentations, et moi, comme scientifique, comme observateur, sociologue, psychologue, je vais vous démontrer votre erreur. On va dissoudre l'erreur, comme la chimie. On va dissoudre votre erreur, et vous allez vous apercevoir, vous allez vous rendre compte que vous étiez dans une totale illusion. La position de Nietzsche, ce n'est pas cela, ce n'est pas de dire, voilà, la cause, parce que ça serait à nouveau tomber dans le monde de la certitude, c'est de s'interroger sur les raisons pour lesquelles je tiens cette illusion. Mais cette illusion, elle peut être féconde. Nous avons vu l'histoire des monuments, n'est-ce pas? Elle peut être féconde. Le platonisme a été fécond. On peut avoir besoin de cette illusion, mais encore faut-il que je sache que j'en ai besoin. Est-ce que cette croyance, je la veux parce qu'elle me sert, ou je la veux pour autre chose? Nous aurions là, mais nous y reviendrons, la grande distinction entre servitude et noblesse. Est-ce que la croyance sert à m'accabler, à me faire servile et dépendant? Ou est-ce qu'elle me sert à la noblesse? D'où la deuxième question, quoi, on ne cherche pas la cause de la volonté, ou la cause de ce qui est voulu, on s'interroge sur la qualité de cette volonté, la valeur ou la qualité de cette volonté. De quelle nature? Quelle est la qualité? Quel est donc ce désir en moi de chercher le vrai plutôt que le non-vrai? Pourquoi l'un plutôt que l'autre? Pourquoi fuir le non-vrai et l'estimer finalement secondaire? Est-ce que cette volonté d'éliminer le non-vrai n'est pas une façon subtile d'écarter ce qui me dérange et ce sans quoi pourtant je n'irai pas vers la vérité? Alors, on pourrait dire que le pire, ce serait justement de ne pas s'interroger sur ce qui me fait aller vers cette vérité. Et éventuellement de reconnaître que le non-vrai, le passage à travers l'illusion, est absolument nécessaire et, pourrait-on dire, contemporain de la recherche du vrai. Alors, on voit bien que cette question, aux yeux de Nietzsche, et je crois sans doute à nos yeux, est une question qui n'est pas sans risque. S'interroger sur l'ambiguïté, car c'est ça, de toute volonté de vérité, c'est évidemment se mettre en péril. Parce que je ne serai jamais libéré de la question. Dans le cas du rationalisme, on va pouvoir découvrir éventuellement que si je crois au progrès, je crois en la religion, à Dieu, etc., c'est parce que je reste à un stade infantile. Une fois que j'aurai découvert ça, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas trop. Mais la question nietzschéenne, elle est indéfinie. Quoi que ce soit que je veuille, je dois m'interroger sur ce que je veux. Alors, nous avons là, j'y reviendrai plus longuement, la force de sa critique, quelle qu'elle soit. La critique nietzschéenne, je dirais, est tous azimuts parce qu'elle est une critique de la volonté qui veut. Quand le scientifique veut la vérité, au bout de son éprouvette, au bout de ses expériences, qu'est-ce qu'il veut au juste? Est-ce qu'il veut se rassurer? Est-ce qu'il veut écraser autrui? Qu'est-ce qu'il veut? La transparence du monde? Ou simplement découvrir ce qui relève de son domaine? Mais c'est la même chose dans le cas de la volonté de croyance, quand vous croyez en Dieu. Qu'est-ce que vous cherchez en Dieu? Et on pourrait dire que, à la différence de la recherche d'une causalité simple, cette question n'est jamais résolue. Voilà le piège du rationalisme aux yeux de Nietzsche, c'est de croire qu'on va pouvoir vous dire pourquoi vous croyez dans le progrès, pourquoi vous croyez en Dieu, et donc vous libérer de ces illusions. Mais la critique nietzschéenne, en ce sens, est beaucoup plus radicale, parce qu'elle va vous dire, ben d'accord, vous allez sortir de la religion, mais vous allez croire en quoi? Au progrès? C'est beaucoup mieux? Vous allez croire, comme il le dit dans un très beau texte sur la volonté de croyance, à votre psychanalyste, au parti politique, à quoi? Donc cette question, il faut toujours se la poser. Et elle est par conséquent une question qui est sans fin, la question du sphinx. Et c'est donc une question risquée et dangereuse, puisqu'elle met en cause celui qui se la pose. Qui est-il, éventuellement, pour chercher la vérité et pour fuir le non-vrai? D'où aussi la question un peu risquée, ne faudrait-il pas aussi d'accepter le non-vrai? Est-ce que notre situation d'êtres humains ne consiste pas aussi à accepter le non-vrai? Pourquoi aspirer à une vérité toute illuminée, toute transparente, qui est, vous le voyez bien dans le cas de Nietzsche, une illusion majeure? Donc il ne faut pas tomber dans ce préjugé, est-ce qu'il ne faut pas accepter que nous sommes toujours plus ou moins empêtrés dans l'illusion? Alors, soit dit en parenthèse, c'est ça qui empêche, aux yeux de Nietzsche, le dogmatisme. Parce que si vous croyez que vous avez atteint la vérité, elle va non seulement vous dominer, mais au nom de ça, vous allez dominer les autres. Si au contraire, vous restez dans une perspective perspectiviste, je n'atteins qu'une part de la vérité et je sais toutes les zones d'ombre de ma vérité, ben vous aurez ce qu'il appelle le sens de la distance et vous n'allez pas imposer votre démarche aux autres. Voilà, nous retrouverons l'ésotérisme nietzschéen. C'est-à-dire que je vous dis des choses, mais si vous ne voulez pas les entendre, je ne vais pas vous imposer. Parce que j'essaie d'ouvrir une voie, mais je peux me tromper. Et vous pouvez ne pas entendre. Mais interrogez-vous, vous-même, si vous voulez bien. Alors voilà, si vous êtes trop faible pour vous interroger, vous allez vous enfermer dans la volonté de croyance. Voilà la volonté de faiblesse. Mais si vous avez un peu de, comme le danseur, un peu de souplesse, vous adhérerez à une vérité, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Nous allons voir dans le deuxième paragraphe. Vous adhérez à cette vérité, mais vous y adhérez de manière souple, non pas rigide et dogmatique et vous enfermant dans le c'est à prendre ou à laisser, ce qu'il appelle la volonté de vérité à tout prix. Mais non, elle n'est pas à tout prix. Comme la femme, on ne peut pas à tout prix, je lui paye tant et elle se dévoile. Mais non. On obtient quoi? Rien. Le vide. Voilà. Donc, un risque. N'en est-il pas de plus grand? Donc, encore une fois, contrairement aux imbéciles qui nous disent « Nietzsche, on voit balader la vérité », vous voyez que Nietzsche vous dit « La recherche de la vérité ». Ah, mais il n'y a pas de plus grand problème que ça. Si je dis bien. Il n'y a pas de plus grand problème que ça. Mais attention, justement, ne croyez pas trop vite y être arrivé. Interrogez-vous sans cesse sur ce que vous avez fait et ce que vous avez obtenu. Bon, je passe au deuxième paragraphe qui vient compléter, que je lis. Comment une chose pourrait-elle procéder de son opposé, Gegensatz, son opposé, je corrige un peu de temps en temps, ou procédé de son opposé, par exemple la vérité de l'erreur, ou la volonté de vérité de la volonté d'illusion, ou la conduite désintéressée de l'égoïsme, ou la pure et radieuse contemplation du sage de la convoitise. Une telle genèse est impossible. Qui rêve ainsi est un fou, ou pire encore, les choses de la plus haute valeur ne peuvent qu'avoir une autre origine, leur propre origine, propre soulignée. Elles ne sauraient dériver de ce monde éphémère, trompeur, illusoire et inférieur, de ce tourbillon d'illusions et de désirs. C'est bien plutôt dans le sein de l'être, dans l'impérissable, dans le Dieu caché, dans la chose en soi, c'est là, souligné, que doit se trouver leur fondement et nulle part ailleurs. Alors, je n'ai pas pu dire, évidemment, quand on lit les guillemets. Là encore, le lecteur pressé ne voit pas les guillemets. Il dit, bon, il s'amuse. Mais non, très important, les guillemets. Il y a des gens qui disent ça. Cette sorte de jugement, dit la suite, constitue le préjugé typique. Donc, le préjugé typique, il est dans les cinq premières lignes. Alors, je disais tout à l'heure que Nietzsche n'est pas un rat de bibliothèque, mais regardez bien, quand même, n'est-ce pas, mine de rien, l'être, l'impérissable, le Dieu caché, si vous avez lu un tout petit peu Pascal, ça doit vous dire des choses, la chose en soi, c'est le petit père Kant. Donc, il y a des allusions, mais qui sont cachées. Tous ces gens-là nous disent la même chose. Bon, je continue. Simplement, je fais remarquer que ces premières lignes, c'est le préjugé typique. Cette sorte de jugement constitue le préjugé typique auquel on connaît les métaphysiciens de tous les temps. Cette sorte d'opposition de valeurs se trouve à l'arrière-plan de tous les procédés logiques. À partir de cette croyance, entre guillemets, ils s'efforcent au savoir, entre guillemets, à ce que finalement ils baptiseront solennellement la vérité, entre guillemets. Donc voilà, ils sont sous cellophane, n'est-ce pas ? Voilà. La croyance fondamentale des métaphysiciens est la croyance aux oppositions de valeurs. Même les plus prudents d'entre eux, ceux qui s'étaient jurés des omnibus dubitandum, doutés de tout, cher Descartes, ne se sont pas avisés de douter au seuil même où le doute était le plus nécessaire. Car on peut se demander, premièrement, s'il y a des oppositions en général, et secondement, si ces appréciations de valeur et ces oppositions de valeur populaires sur lesquelles les métaphysiciens ont opposé leur sceau ne sont peut-être que des révélations superficielles, des perspectives provisoires, peut-être en outre prises sous un certain angle, peut-être de bas en haut, équivalente à des perspectives de grenouille, pour employer une expression familière aux peintres. En effet, quand on regarde un tableau de Rembrandt, Rubens, on a la position de grenouille qui regarde en haut. Bon, je dirais ça, c'est un peu la seconde partie sur laquelle je vais revenir. Et, affirmation centrale, quelques valeurs qu'on en vienne à attribuer au vrai, au vraisemblable, à l'oubli de soi, il se pourrait qu'on dût attribuer à l'apparence, à la volonté d'illusion, à l'intérêt propre, au désir, une valeur plus haute et plus fondamentale pour toute vie. Il serait même possible que ce qui constitue la valeur de ces choses bonnes et vénérées tint justement à ce qu'elles s'apparentent, se mêlent, s'ancrent de manière insidieuse dans ces choses apparemment opposées et mauvaises, peut-être même essentiellement de même nature, peut-être. Et puis, dernière conclusion, mais qui se soucie de ces dangereux peut-être ? Pour cela, il faut attendre l'avenue d'une nouvelle espèce de philosophe dont les goûts et les penchants s'orienteront en sens inverse de ceux de leurs devanciers. Philosophe du dangereux peut-être dans tous les sens du mot. Et très sérieusement, je vois poindre au loin ces philosophes nouveaux. Suivez mon regard, c'est évidemment Nietzsche qui est le philosophe du dangereux. Bon, je reviens sur ces quatre moments. D'abord, sur l'énoncé du préjugé. typique des textes nietzschéens, on entre dans la pensée du préjugé sans même s'en rendre compte, puisqu'on ne voit pas les guillemets. Donc vous voyez le labyrinthe, c'est ça, c'est vous rentrez dans le labyrinthe, vous dites « bon, je vais ressortir aussitôt », et puis une fois que vous êtes dans le labyrinthe, vous apercevez que vous êtes perdu. Alors vous rentrez, les Kathleen dit « c'est merveilleux, tout à fait », et puis vous apercevez que c'est justement l'illusion. On commence par le préjugé, mais on vous dit pas que c'est un préjugé, parce que si on vous le dit, c'est fini. Donc vous entrez dans le préjugé, tout à fait un peu machiavélique, n'est-ce pas ? On vous fait rentrer dans un propos sans voir qu'il va être critiqué dans la suite. Alors quelle est l'affirmation centrale, qui comme toujours n'est pas absolument prouvée, mais que nous allons essayer de cerner ? C'est que l'opposé, Gegensatz, l'essence du préjugé, c'est que l'opposé ne peut pas engendrer son opposé. L'opposé ne peut pas engendrer son contraire. La vérité ne peut pas sortir du non vrai. La conduite désintéressée ne peut pas sortir de l'égoïsme. La contemplation ne peut pas sortir de la convoitise. C'est ou l'un ou l'autre. Ça, c'est le premier préjugé. C'est ou l'un ou l'autre. Il n'y a pas de partage, il n'y a pas de compromis possible, il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de passage de l'un à l'un, de l'un à l'autre, on est dans l'un ou dans l'autre. Deuxième affirmation, donc première affirmation, il y a incompatibilité, on ne peut pas sortir l'un de l'autre. Deuxième affirmation, cette impossibilité oblige à postuler une origine propre aux valeurs les plus hautes. Les valeurs les plus hautes, à savoir la vérité, le bien, la justice, ne peuvent évidemment pas participer à l'univers de l'éphémère, du trompeur, de l'illusoire. Dans l'expérience sensible, pour parler comme Kant, ou dans l'expérience phénoménale, vous ne rencontrez jamais le bien, jamais la vérité, jamais la justice. Vous rencontrez des choses qui sont contradictoires, plus ou moins ceci, plus ou moins cela. Le monde sensible est précisément ce monde d'indétermination, du flou, de ce qui échappe à cette catégorisation simple. Alors, vous voyez assez bien, je pense, que ce qui est visé là, c'est évidemment Platon. Ou Socrate, ou Platon. C'est-à-dire que le grand geste platonicien consiste à dire... Oui, nous sommes dans le sensible. Oui, nous sommes dans la caverne. Mais faites bien attention que vous ne pouvez rien baser sur le sensible parce qu'il est mouvant. Tous les cercles que vous faites en géométrie sont des cercles bancaux. Donc tout ce que vous voyez au fond de la caverne, sur le mur, ça n'est que des ombres. Si vous voulez juger des ombres, il faut sortir de la caverne. Si vous voulez juger de la circularité d'un cercle, il faut remonter à l'idée de cercle. C'est grâce à l'idée de cercle que vous allez tracer des cercles à peu près circulaires, même avec un compas, parce que même avec un compas, vous allez avoir un papier qui est plus ou moins bosselé. C'est l'idée pure de cercle qui est pure, concrètement dans le sensible, jamais. Voilà. La justice, même chose, quand il réfléchit dans la République, les sociétés humaines ne sont jamais justes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut se donner un modèle de cité. Il faut se donner une idée de justice. Il faut viser la cité idéale que seul le philosophe peut concevoir. Il faut se donner, par conséquent, un idéal pur de justice pour pouvoir ensuite redescendre dans la caverne, car il sait bien, pour Platon, il faut bien de redescendre dans la caverne, pour mettre en place une cité à peu près juste. Donc, le rôle de l'idée ne se trouve jamais dans le sensible, elle se trouve dans l'intelligible, elle se trouve dans le monde suprasensible, mais c'est elle qui fonde le monde sensible pour Platon, c'est elle qui fonde la vérité du monde sensible. Bon, donc on voit très bien que ce qui est visé dans ce petit texte, c'est en effet le geste platonicien, de dire qu'il faut s'évader du sensible. Alors Nietzsche a tendance à oublier que Platon veut revenir au sensible, Bon, j'ouvre une petite parenthèse, il oublie un peu ça, enfin il le laisse de côté, mais on pourrait très bien dans la ligne de chienne dire « revenir au sensible risque d'être une catastrophe ». Regardez la philosophie politique de Platon, nous avons une société idéale telle que la conçoit le philosophe, mais si vous la voulez la mettre en pratique dans le sensible, bonjour les dégâts. N'est-ce pas? C'est la société idéale, utopique, on connaît le socialisme utopique. Quand vous essayez de les mettre en œuvre, c'est la catastrophe. Parce que précisément, vous ne pouvez jamais échapper aux passions des hommes, aux sensibles, au fait que les choses ne sont jamais permanentes et vont évoluer. Bon, donc on pourrait dire que Nietzsche a parfaitement raison de dire ben, « c'est très beau l'idéal ». Mais quand vous essayez de le mettre en pratique, c'est-à-dire d'évacuer l'illusion pour une société parfaitement juste, ben, vous allez voir ce que ça donne. Ça va donner le camp de concentration. Bon, c'est pas Nietzsche qui le dit, c'est moi, mais on pourrait... Alors on pourrait dire que c'est la même chose pour Kant, n'est-ce pas? Je cite Kant parce qu'il va le citer tout à l'heure. « Comment les jugements synthétiques a priori sont-ils possibles ?» Pour Kant, qui a influencé par Hume, bien entendu, tout événement a une cause. Si on entend un bruit tout d'un coup, on va se dire « qu'est-ce qui s'est produit ?» Le bâtiment s'effondre, il y a un accident, il y a une bombe. On va chercher une cause. On ne peut pas ne pas chercher une cause. Et donc, nous avons dans l'esprit l'idée que le sensible, le bruit que nous entendons, nous avons dans l'esprit qu'il ne peut pas être sans raison. Il y a sûrement une cause au bruit. Ça, c'est l'a priori. Nous ne sommes pas à dire, oh, bon, il y a un bruit, bon, très bien, on va se passer, on attend. Non, on va chercher pourquoi. Ça fait partie de ce qu'il appelle les jugements synthétiques a priori. Alors que la réalité phénoménale ne suppose qu'une série d'événements. Il y a un bruit, puis après, c'est le silence. Bon, bien, très bien, pourquoi vous arrêtez ce bruit? Bon, donc la réalité phénoménale, elle est faite de choses discontinues. Il n'y a pas de cause à proprement parler. Ou vous allez en attribuer une à un événement particulier. Mais on va toujours pouvoir vous dire, oui, mais le bâtiment s'est effondré, c'est pas ça qui a fait du bruit, c'est autre chose, etc. Bon, l'entendement peut appliquer aux phénomènes sensibles des catégories organisatrices qui témoignent du pouvoir synthétique du sujet. Mais ils ne témoignent que du pouvoir synthétique du sujet. Alors, on pourrait dire la même chose dans le cas de Kant. Kant nous explique que on ne peut jamais trouver dans l'expérience sensible d'actes de vertu. C'est-à-dire que l'expérience sensible ne nous révèle que des actes ambigus. Il faut pas en conclure qu'il n'y a pas d'actes moraux, mais il faut en conclure que seule la volonté pure de raison est morale. Quand vous regardez un geste concret, et ça c'est intéressant parce que ça ouvre par certains côtés à des analyses de l'inconscient, quand vous avez un acte concret, il est toujours mélangé. Et là on est proche de Nietzsche. C'est-à-dire qu'on va toujours pouvoir vous dire le plus grand dévouement, donner sa cause pour la patrie, etc., ou se dévouer pour ses enfants, on va toujours pouvoir vous dire oui, vous dévouez vos enfants, mais en même temps vous y avez intérêt, vous prenez plaisir à élever vos enfants correctement. Hein? Ce que vous cherchez c'est finalement votre plaisir. Et c'est vrai que vous cherchez votre... Vous voyez, on est tout à fait proche de Nietzsche. Et vous dites, oh, monsieur, je me sacrifie pour mes enfants. Mais oui, mais vous êtes content de vous sacrifier. Ouais, vous voulez avoir des enfants corrects. Et puis ça vous fait plaisir d'être un bon père de famille quand on vous dit, ah, ben, vos enfants sont bien élevés. Donc, tout ça, c'est pas pur. Voilà. Alors, quand on nous dit ça tout à fait concrètement, il n'y a aucun acte totalement pur, sinon des actes de raison. Bien, je dirais que cette perspective, et je vais m'arrêter là pour faire une petite pause, elle est tout à fait proche de Nietzsche. Quand il nous dit, mais vous savez, quand vous jugez d'un acte ou de quoi que ce soit, c'est jamais pur. Il y a toujours quelque chose de mêlé, notamment en matière de morale, puisque c'est ça qui l'intéresse particulièrement, part de la bien et le mal. Ça veut dire que, évidemment, vous voulez le bien, l'idéal, mais faites bien attention que concrètement, jamais vous ne réalisez le bien. Ou alors, c'est que vous êtes dans l'illusion totale. Hein, le fou. Vous croyez que vous avez fait... Quand vous, et je crois que ça, c'est quand même très très profond. Quoi que ce soit que nous voulons aussi l'ambiguïté. Si un psy qui vous explique que quand vous aimez vos enfants, vous dévouez pour eux, c'est votre plaisir que vous cherchez, vous dites non, 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 ben vous allez vous torturer. Acceptez aussi que tout en voulant le bien de vos enfants, vous vous faites plaisir à vous-même. Où est le mal? Mais ça veut dire que... Je ne veux pas purement le bien de mes enfants. Je veux en même temps, ben oui, mon plaisir, l'harmonie du couple, tout ce que vous voudrez. N'est-ce pas? Voilà. Je crois que c'est tout à fait cette idée qui chasse le préjugé selon lequel nous pourrions atteindre le bien pur. Et l'exemple de Kant, je crois, est très, très caractéristique. Je vais dire la prochaine fois combien Nietzsche est proche de Schopenhauer, mais je crois qu'on peut dire aussi que Nietzsche est un bon disciple de Kant, par certains côtés. Bon disciple de Kant, il reprend beaucoup. Peut-être est-ce aussi l'influence du puritanisme protestant, mais il y a tout de même quelque chose de fort là-dedans. Voilà, je vais reprendre les trois autres parties après quelques 10 minutes, un quart d'heure de pause. Oui.
Notamment, on va parler lors de la première séance de la musique. Alors, je me suis rappelé d'un truc que ça m'a frappé, que l'une des explications de l'invention de l'harmonie par
les Grecs,
le fameux théorème.
Euclide
avec Parmenide. Le triangle rectangle. Ah là,
c'est pas Euclide ou qu'est-ce que
non ? Non, c'est la somme carrée.
Ah oui, comment ? Oui, moi aussi, c'est un vrai. Enfin bon.
Bref,
oui.
L'un des premiers grands philosophes était justement apparu par le jeu des marteaux de forgeron.
Oui. Pourquoi ?
Parce qu'il a. Le marteau, il a entendu en fait une harmonie par la différence des marteaux. Donc au fond, finalement, sous le marteau de
chien. Le marteau, je l'avais dit l'autre jour, c'est à la fois le marteau du piano.
Oui.
Vous savez, c'est à la fois le marteau dont vous parlez, c'est aussi le marteau de l'oreille. Donc il y a une polysémie qui est derrière tout ça.
L'intention même de l'accord, finalement, en musique.
Oui, aussi de l'accord.
De marteau.
Oui, sûrement, oui.
Finalement, c'est un coup de marteau qu'on crée.
Pour tout à fait, oui, c'est tout à fait.
Nietzsche. Qui est la méthodologie nietzschienne.
Oui, absolument, oui. Oui, qui est paradoxal, mais qui est...
D'un côté, les universitaires pratiquent la même chose de manière un peu moins...
Oui.
Spectaculaire, mais...
Oui, oui.
Saint Thomas, lorsqu'il rentre dans la thèse de l'adversaire pour le démontrer.
Oui, oui, on pourrait dire ça, oui. Enfin... Je crois qu'il ne faut pas effacer quand même l'originalité de Nietzsche, qui est quand même forte là-dessus. Parce que c'est une pensée tourmentée. Vous voyez, cette histoire du risque et tout ça.
C'est une manière même de le poser, de toute façon,
oui, on crée déjà une originalité. Parce qu'on dirait chez saint Thomas, on est un peu dans le calme et l'ordre. Les questions succèdent, elles se répondent mutuellement. C'est une immense cathédrale. Donc là, c'est un peu... C'est-à-dire, on peut toujours mettre en effet un peu de négatif dans tout ça. Vous êtes philosophe vous-même ou...
Oui, je suis en master de philosophie à la Sorbonne.
Ah, bon, d'accord. Vous avez des cours sur Nietzsche ?
Pas du tout. Enfin, j'ai eu quelques cours qui ont porté un peu sur Nietzsche, mais...
Qu'est-ce qu'il y a plus ? Il n'y a plus tellement... Je cherchais... Quelqu'un voulait faire une thèse sur Nietzsche en Sorbonne, il n'y a plus grand monde, hein ?
Il n'y a plus grand monde, mais de toute façon, aujourd'hui, la Sorbonne, c'est l'un d'un côté, vous avez les phénoménologues...
Ah oui, Marion...
Vous êtes... Pradel...
Ah oui.
Compagnie, et en politique, c'est surtout les Rawlsiens...
Qu'est-ce qu'il y a là alors ?
Vraiment, c'est politique, quand même, ça, c'est un Renault.
Ah oui, oh là là, oui. Un Kantien. Kantien. Ah oui, parce qu'à une époque, il y avait quelques. Moi, j'avais suivi les cours de Henri Biraud quand je faisais ma thèse. C'est lui qui, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais qui rapprochait beaucoup Nietzsche de Kant. Il disait, il aime beaucoup plaisanter. Nietzsche est parfaitement kantien, c'est un kantien pur. C'est un peu exagéré, mais je pense que c'est pas idiot.
Ouais. C'est la culture de l'époque.
Et vous aviez connu la maison, comment vous aviez connu ? Vous avez suivi déjà des cours ici ?
Non, j'ai été envoyé cette année.
Ah oui. Vous avez le temps d'accumuler des cours ?
Souvent, à Master 2, on n'a plus beaucoup de cours.
De cours, oui, donc vous avez du temps.
Si c'est pour rester tout seul dans le petit bureau à procrastiner...
Non, mais très bien, vous avez bien mieux.
On ne sait jamais si la bonne idée n'est pas chez le truc.
Ah.
D'où viennent les idées justes ?
Oui, ou à peu près justes, comme dirait Rawls.
Tout le moins, ils sont raisonnables.
Vous pouvez les viser. Oui, oui. Vous êtes bienvenus. C'est vous qui avez posé des questions tout à l'heure ?
Oui.
Oui, mais c'est bien, parce que les gens sont intimidés, parce que beaucoup démarrent en philo, donc on peut un peu peur de...
Je vous avoue qu'à posteriori, j'ai trouvé assez pas très maligne, vu que la réponse est assez évidente, finalement.
Bon, c'est pas les questions qui sont idiotes, c'est les réponses, comme on dit souvent.
Oui, donc ça, c'est la fameuse fable zen, le maître frappe le disciple qui pose une question pour le faire comprendre qu'il aurait dû réfléchir à la question avant de la poser.
Non, je ne suis pas zen, alors, comme vous voyez...
Je me fais beaucoup la tendance des philosophes à poser une question de 2 km de long.
Oui. Ah ben c'est souvent les auditeurs dans les conférences qui vous expliquent ce que vous auriez dû dire et que vous n'avez pas dit. Bon, nous allons reprendre notre parcours. Nous saisissons à travers ce paragraphe 2 à quel point Nietzsche s'oppose à toute forme de dualisme. C'est, on pourrait dire, son cheval de bataille de s'opposer au dualisme métaphysique, donc Platon, au dualisme moral, au dualisme sous toutes ses formes. Je crois d'ailleurs qu'on voit aussi par là pourquoi on traduit aujourd'hui Jenseits Kuttenböse en omettant l'article, puisque justement ce à quoi il s'oppose, c'est l'idée qu'il y aurait un bien distingué d'un mal. Par-delà bien et mal, laisse entendre que précisément ils sont tous les deux plus ou moins mêlés et d'une certaine façon complémentaires. Alors j'en viens à la deuxième versant de ce paragraphe, où Nietzsche ne craint pas d'affirmer avec une belle audace que ce préjugé a été celui de tous les métaphysiciens. Bien entendu, c'est un coup d'audace qu'on peut toujours critiquer, parce que est-ce que tous les métaphysiciens... Je note simplement qu'il ne parle pas, ici comme ailleurs, de la métaphysique. Il ne parle pas de la métaphysique. Cela peut paraître en détail, mais c'est tout à fait cohérent avec la position qu'il défend. Il parle des métaphysiciens. Par conséquent, il ne s'en prend pas à des systèmes... Et nous le reverrons à propos de la religion. Il ne critique pas à proprement parler les dogmes chrétiens en disant tout ça ne tient pas la route, c'est des choses idiotes. Il s'en prend à ceux qui croient ou qui veulent croire. Donc, non pas à la métaphysique avec une majuscule, mais aux métaphysiciens en tant que ce sont des métaphysiciens qui ont voulu la vérité. Donc, la question tout à fait nietzschéenne, c'est d'interroger ces gens-là qui ont voulu la vérité. Et pourquoi ont-ils voulu la vérité? Quel type de vérité ont-ils voulu? Quelles démarches ont-ils faites pour atteindre cette vérité? Donc, ce qui est à la base, et voilà un élément essentiel, c'est une croyance. Les métaphysiciens croyaient qu'il était possible d'atteindre le vrai, et de l'atteindre purement. Alors, j'insiste un tout petit peu sur ce mot de croyance, Glauben, en allemand, Glauben. L'allemand n'a pas, à la différence du français, deux mots. En français, on a croyance, et c'est la plus grande fréquence de traduction, mais on a aussi le mot foi. Or, en allemand, et chez Nietzsche par conséquent, cette distinction n'existe pas. Et par conséquent, il faut bien éviter, me semble-t-il, la position apologétique facile qui consiste à dire « Ah oui, il parle de croyance, mais au sens abâtardi du terme, comme je crois que le soleil se couche, etc. » Alors qu'en réalité, il ne se couche pas, bien entendu, mais je crois parce que, bon, je le vois. Et on va opposer cette croyance fausse ou subjective à la foi pure, la foi en l'Évangile, etc., un peu dans la ligne de Karl Barth. Alors, Nietzsche ne fait pas cette distinction, ça il faut le savoir. Donc pour lui, il n'y a que des Glauben, que des croyances. J'ai donné l'exemple tout à l'heure, qui critique effectivement, croyance au progrès, croyance à la science, croyance religieuse. Donc, aux yeux de Nietzsche, ce qui commande la démarche intellectuelle, c'est une croyance. On ne fait une recherche scientifique, on ne fait une recherche quelconque, que parce qu'on croit possible de sortir de l'erreur et d'aller dans la vérité. Or, il se trouve que souvent, cette démarche s'identifie à une sorte de préjugé. C'est-à-dire, je crois qu'en effet, j'ai atteint la vérité. Et cette confiance dans la démarche de la raison devient elle-même un préjugé. Et l'on va baptiser vérité ce qui n'est en réalité qu'une croyance subjective, c'est-à-dire un préjugé. La croyance fondamentale des métaphysiciens, c'est de baptiser finalement leur propre découverte, leur propre démarche, du nom de vérité. Donc on couvre la croyance subjective de noms pompeux, croire en progrès, croire en la vérité, croire au bien, croire en la justice, croire à la science, et ainsi de suite. Alors, quelle est cette croyance? Bien, nous commençons à le voir, c'est précisément de s'imaginer qu'il y a quelque chose comme une opposition de valeurs. Opposition qui, selon Nietzsche, évidemment, on pourrait discuter, est-ce que c'est le cas d'Aristote, est-ce que c'est le cas de bien d'autres, mais enfin, disons, en gros, pour lui, et nous voyons qu'il a dans le collimateur, en effet, le platonisme et ses conséquences, et de l'autre côté, le christianisme, pour lui, ne faites pas de doute que cette opposition a été tenue pour allant de soi. Elle commande la démarche de tous les philosophes. Et c'est pas totalement faux, tout philosophe, mais on pourrait dire tout scientifique, qui ne serait pas animé par une volonté de croyance, ben, il faut qu'il y ait... qui cultive des salades, mais qui fasse autre chose que de chercher à faire des expériences dans un laboratoire ou de réfléchir. Bon, donc c'est le préjugé que on peut sortir de l'erreur ou de l'illusion et on peut aller à la vérité. Alors, quelle est cette interrogation? On pourrait dire qu'elle est double. Y a-t-il d'abord de telles oppositions? Faut-il les tenir comme allant de soi? Faut-il s'installer en quelque sorte dans cette idée que l'on va de l'erreur à la vérité, qu'on peut sortir progressivement de l'erreur pour aller à la vérité? Ou est-ce qu'il ne faut pas poser la question qu'il estime plus fondamentale, pourquoi est-ce que je veux la vérité plutôt que l'erreur? Quand je me mets à chercher la vérité, qu'est-ce que je cherche au juste? On voit tout de suite d'ailleurs qu'il n'y a pas de réponse claire à cette question. Ça sera toujours une réponse ambiguë. Alors, première interrogation, est-ce qu'il existe de telles oppositions? Et évidemment, aux yeux de Nietzsche, non. Deuxièmement, est-ce que ces oppositions qu'on croit fondamentales, absolument décisives, ne seraient pas superficielles? Est-ce que ce ne serait pas un point de vue de surface, le fameux point de vue de la grenouille, où nous retrouvons l'idée de perspectivisme? Est-ce qu'en réalité, on peut jamais sortir d'un point de vue, d'une perspective, à partir de laquelle on voit l'ensemble du tableau, mais je n'ai pas et on ne peut pas avoir de point de vue de surplomb sur le tableau. On a toujours simplement une perspective. On a un point de vue. Le danger, dénoncé en effet par tous ces textes, c'est de croire que mon point de vue, c'est le point de vue. Qu'il n'y en a pas d'autre que mon point de vue bien analysé, etc., bien informé, tout ce que vous voudrez, bien mis à l'épreuve, c'est le seul point de vue possible, c'est-à-dire que ce point de vue s'identifie à la vérité, au bien, à la justice, etc. À ce moment-là, la croyance devient fanatique, comme il dit dans des textes postérieurs, elle devient une volonté de vérité à tout prix. Or, ce préjugé nous cache qu'en réalité, on est toujours dans une perspective, dans un point de vue à partir duquel nous regardons le paysage, et que nous ne pouvons pas sortir de ce point de vue. On peut prendre d'autres points de vue, on peut regarder un Rembrandt ou un Rubens à travers d'autres points de vue, c'est-à-dire comme on fait beaucoup dans les musées modernes, on vous fait des analyses chimiques du tableau, n'est-ce pas, en pensant que ça vous fait découvrir Rembrandt. Alors vous découvrez que derrière la coiffe de la bonne femme, il y avait un chapeau melon, etc. Bon, une fois que vous avez vu ça, bien avancé, ben, c'est un point de vue valable, parce que vous montre le travail de Rembrandt. C'est un point de vue. Si vous le prenez pour le point de vue, bon, ça ne marche pas. Donc, il y a plusieurs points de vue. Et la grande erreur, ou comme dit Nietzsche, le préjugé, c'est de croire que mon point de vue, c'est la vérité. Ou c'est le point final. Alors, pourquoi y en est-il ainsi? Mais parce que, justement, nous sommes animés en général, pour Nietzsche, par une volonté d'échapper à l'éphémère. J'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas, que le grand reproche fait à Platon, c'est d'avoir substitué un monde de l'idéal, la vérité, le bien, la justice, au monde sensible. Parce que ce monde sensible, il nous effraie. Ce monde sensible, il est le monde du relatif, il est le monde du contingent, il est le monde du transitoire. Vous comprenez, si il faut beaucoup de, par certains côtés, d'humilité, et puis je reviendrai là-dessus, il faut beaucoup de force pour accepter de dire, vous savez, mon point de vue, évidemment, je le partage, puisque c'est le mien, et je peux donner des raisons, mais peut-être qu'il est faux. accepter de dire mon rapport à la vérité, auquel je tiens, il est peut-être faux. Ça suppose beaucoup d'audace de dire ça. Et ça suppose, nous retrouvons toujours le pathos der Distanz, une grande distance par rapport à la vérité. Je vise la vérité, mais je ne la possède pas. Je peux vous dire ce tableau ne vaut rien, pour telle et telle raison. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que je suis mal luné ce jour-là, ou j'ai mal digéré, ou je ne sais quoi, ou j'ai mal au foie, ou j'ai mal à la tête. Je peux me tromper. La volonté de vérité à tout prix, c'est à partir du moment où je crois que ma perspective est la seule perspective possible. Voilà, la seule perspective possible. Et on pourrait dire que la volonté du vrai est d'autant plus forte que je suis faible. C'est-à-dire que je n'accepte pas de reconnaître la relativité de mon point de vue. La volonté de vérité à tout prix est un déni d'acceptation de la mouvance du réel. Voilà, alors ça c'est le grand geste, je crois aussi, nietzschéen contre Platon. Le Platon de Nietzsche, hein, c'est pas, si on regarde les textes de Platon, c'est toujours plus compliqué, mais c'est la peur du sensible. Je dis, en ouvrant simplement une perspective, justement, si l'on prend la chose sur le plan moral, on voit très bien qu'on peut transposer ça en disant il faut critiquer ce que Nietzsche appelle dans la généalogie morale des morales ascétiques qui vont se refuser à accepter les passions, le sensible, les choses approximatives pour n'atteindre que le vrai, le bien, le juste, pas dénier ce que nous sommes au profit de l'idéal. Alors il cite dans l'Antichrist, qui est un livre très méchant, la formule de saint Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. J'ai tellement effacé mon moi haïssable que c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Donc j'ai tellement éliminé ma singularité, mon tempérament, mes passions, mes désirs, c'est un autre qui vit en moi. Aux yeux de Nietzsche, c'est une chose abominable, et d'ailleurs tout à fait fausse. Parce que si on lit les épîtres de Paul, c'est pas le Christ qu'on rencontre. Enfin, on rencontre le Christ, mais on rencontre surtout un homme coléreux, fougueux, et c'est ça qui fait l'intérêt d'ailleurs des épîtres. C'est qu'on rencontre Monsieur Paul de Tarse, en même temps qu'il nous dit autre chose. Voilà, alors c'est ça la morale ascétique, c'est la morale puriste, c'est celle qui dit j'ai purgé mes passions, j'ai purgé mes illusions, je suis dans le uni à notre Seigneur, uni au bien, quand je milite pour la cause, je suis entièrement adhérent à la volonté du parti, c'est-à-dire je milite, je suis prêt à sacrifier ma famille pour... Voilà, c'est ce genre de choses que Nietzsche, j'allais dire, ne peut pas voir en peinture. Alors, on pourrait dire qu'à partir de là, en effet, sa critique de la volonté d'échapper à l'éphémère pourrait tomber sur Kant lui-même. Pourquoi Kant relativise-t-il finalement la connaissance scientifique au profit de la morale ou de la religion? Pourquoi cette volonté d'échapper au réel et de s'en tenir comme seul véritable les affirmations scientifiques, le reste relevant de ce que Kant appelle la croyance, justement. La croyance, toujours la Glauben au sens allemand du terme. Donc, on pourrait dire qu'il faut une volonté forte, une volonté de puissance, pour accepter de dire ce que je crois là est sans doute vrai, mais ça n'est pas la vérité en tant que telle. C'est toujours moi qui l'a dit, et je peux par conséquent me tromper. Mais la volonté faible, c'est celle, en effet, qui va se crisper sur sa croyance en l'identifiant à la vérité. Ce n'est pas moi qui vous dis, c'est le Christ qui vous dit en moi. Ce qui est un geste, j'allais dire, terroriste, parce que on voit bien ça dans toutes les idéologies. On voit ça, laissons ce malheureux saint Paul de côté, mais dans le cas du communisme ou du marxisme, c'est la vérité de l'histoire, disait M. Althusser. C'est la véritable traduction scientifique de la marche de l'histoire. Ce qui implique que si vous n'adhérez pas à ça, alors de deux choses l'une, ou bien on va vous expliquer plus clairement, parce que vous n'avez pas encore bien compris les subtilités du matérialisme dialectique. Ou bien si, devant la vérité, vous n'y adhérez pas, il y a des hôpitaux psychiatriques pour ça, que vous soignez. Vous voyez, je pousse le trait. Mais la volonté faible qui a besoin de la puissance pour s'affirmer est une volonté terroriste. La volonté de vérité à tout prix, c'est une volonté qui écrase l'autre. Seule la perspective perspectiviste vous permet de dire, ben voilà, j'adhère à ça, j'y crois vraiment. Mais, oui, j'admets que vous puissiez avoir un autre point de vue. Encore une fois, je me semble que la référence artistique est tout à fait fondamentale. Vous pouvez aimer Rubens ou dire ces grosses flamandes un peu flasques, moi, c'est pas ma tasse de thé. Ça veut pas dire que vous dites que Rubens c'est un, ne sait pas peindre. Ça veut dire que vous aimez pas ça. Mais vous n'excluez pas comme idiot, de mauvais goût, celui pour qui Rubens c'est le fin du fin. Vous avez une perspective. Ça, je crois que c'est évidemment tout à fait fondamental. Donc, il ne s'agit pas de poursuivre le doute pour le doute. Il s'agit de se dire, jamais je n'atteins le fond des choses. Nous retrouverons l'idée de pudeur. Jamais je n'atteins la transparence intégrale. D'où l'idée de référence à la peinture qui est évidemment ici tout à fait fondamentale. Bon, le point de vue va donc, c'est là qu'on retrouve le subjectivisme, si on veut, de Nietzsche. On ne peut jamais sortir de son point de vue. Perspectivisme. Il n'y a pas le point de vue des points de vue. Il n'y a pas de perspective de surplomb qui mettrait finalement tout le monde d'accord. Soit dit par parenthèse, cet homme qui est si antimoderne, par beaucoup de côtés, ouvre la voie à l'idée de pluralisme démocratique. N'est-ce pas? L'idée du pluralisme démocratique, c'est de dire personne ne sait quelle est la justice et quel est le bien de la société de demain. Ce qu'on peut chercher, c'est de mettre ensemble nos points de vue. Le point de vue du médecin, le point de vue de l'ingénieur, le point de vue du juriste, ce qu'on fait dans les comités d'éthique. Par exemple, on va chercher à trouver un bon compromis qui ne sera pas du jésuitisme, mais qui sera ce qu'on estime être le moins mauvais. N'est-ce pas? Un disciple de Platon, c'est quand même un peu le philosophe américain John Rawls, qui a fait une théorie de la justice. C'est intéressant parce que de voir, il parle, je ne sais pas si vous connaissez ces textes, il parle d'un voile d'ignorance. C'est tout à fait platonicien. Il faut cacher nos préférences individuelles. Dans le voile d'ignorance, pour construire la société de justice, il ne faut pas savoir si vous êtes homme ou si vous êtes femme, si vous êtes vieux ou jeune, quel métier vous avez, quels sont vos problèmes. Il faut se retrouver dans la nudité pour choisir les deux principes de justice fondamentaux. Alors, Boisdet, c'est du Platon, n'est-ce pas? Il faut sortir de la caverne pour atteindre la théorie, puis la théorie, on la met en pratique. Mais Rawls vous dit, attention, on ne pourra jamais mettre en œuvre la théorie de la justice que de manière à peu près juste. J'aime beaucoup cette expression de Rawls. À peu près juste. Et ça, c'est vrai en politique. On va trouver des lois en matière d'écologie, en matière de justice, en matière d'éducation, etc. À peu près juste. Alors, si on est très optimiste, on dira le plus juste possible. Mais, voilà, la justice n'est pas de ce monde, bien qu'il faille sans arrêt la chercher. Bon, alors, nous en arrivons au troisième point. Ceci n'est pas sans poser des questions, mais j'avance quand même, on pose la question au début de la troisième partie. Quelques valeurs qu'on vienne, la prochaine fois, je veux dire, quelques valeurs qu'on vienne attribuer au vrai, au vraisemblable, à l'intérêt propre, au désir. Quelques valeurs qu'on en vienne à attribuer au vrai, au vraisemblable, à l'oubli de soi. Nietzsche ne dit pas qu'il ne faut pas chercher à s'oublier soi-même, que le scientifique ne doit pas être désintéressé. Bon. Quelques valeurs qu'on en vienne à attribuer au vrai, au vraisemblable, à l'oubli de soi, il se pourrait qu'on dût attribuer à l'apparence, à la volonté d'illusion. Il se pourrait. De nouveau, c'est pas du dogmatisme. Et essayez de comprendre. C'est peut-être pas si idiot que ça. Mais si vous n'en voulez pas, si vous êtes un dogmatique, si vous êtes un intégriste, etc., un djihadiste, ben, très bien, vous laissez tomber. Mais c'est nous qui allons en payer le prix, n'est-ce pas? Vous allez m'imposer votre vérité. Bon, il serait possible, Il se pourrait conduite attribuer à l'apparence, à volonté, illusion, à intérêt propre, au désir, une valeur plus haute et plus fondamentale pour toute vie. Il serait même possible que ce qui constitue la valeur de ces choses bonnes et vénérées, tint justement à ce qu'elles s'apparentent, se mêlent, s'ancrent de manière insidieuse dans ces choses apparemment opposées et mauvaises, peut-être même essentiellement de même nature. Peut-être. Alors, c'est une autre hypothèse à examiner, qu'on ne vous assène pas comme une vérité dogmatique, et c'est une double hypothèse, un double versant de cette hypothèse. Là, le premier versant, la première hypothèse, c'est que tout en maintenant la valeur du vrai, de la vérité, de la véracité, du désintéressement, il faudrait peut-être admettre en même temps la valeur de l'apparence, la valeur de tromper, ou de se tromper, et peut-être même que ces valeurs-là, tellement méprisées et piétinées, ont une valeur plus haute et plus fondamentale pour la vie. Alors, on reproche souvent à Nietzsche du vitalisme, mais ça veut dire à nouveau que les croyances, elles s'ancrent toujours dans une volonté de vie. Donc, la question est toujours de savoir en quoi telle croyance m'aide à vivre. Est-ce qu'elle m'aide à vivre de manière esclave et repliée sur moi-même, servitude, ou est-ce qu'elle m'aide à vivre de manière qui soit noble, de manière distinguée, Vornehmheit. Question qui est toujours à poser et qui est évidemment fondamental, parce que ça veut dire que nous pourrons avoir besoin pour vivre d'une illusion qui nous maintient dans la vie. On peut en avoir besoin, mais on a besoin de cette illusion à condition de vouloir vivre. Si l'on ne veut pas vivre, eh bien cette croyance vous tue et vous englobe et vous détruit. D'où le soupçon très fondamental, est-ce que la volonté de vérité à tout prix ne serait pas une volonté de mort? Volonté de néant. Est-ce qu'en voulant éliminer l'illusion, l'erreur, le mensonge, on ne détruit pas le monde et la réalité? Est-ce que ce n'est pas une volonté de mort? Alors je vous renvoie à ce paragraphe 344 du Gai Savoir, qui est une critique terrible du scientisme, où Nietzsche dit entre autres, « Combien avons-nous sacrifié de valeur sur l'autel de la science ?» N'est-ce pas ? C'est-à-dire l'autel de la science, le côté sacrificiel. « Combien n'avons-nous pas sacrifié de valeur au nom du progrès ?» Tenu pour la valeur indiscutable au nom du progrès, on va faire des autoroutes, on va bâtir, etc., etc., on va faire des recherches, on va faire des recherches sur l'embryon. Combien de valeurs ne détruit-on pas ? Est-ce que cette volonté de vérité à tout prix n'équivaut pas à une volonté de mort, c'est-à-dire une volonté destructrice? Voilà la question. Il ne s'agit pas de renoncer à la volonté de vérité, mais à la volonté de vérité à tout prix. On pourrait dire peut-être que ça vous la voir à ce qu'on appelle aujourd'hui, et qui est très mal vu, le principe de précaution. C'est-à-dire qu'avant de vous foncer tête baissée sur un projet, regardez donc un peu avant, si ça ne va pas produire des effets plus négatifs que positifs. On n'évitera jamais les effets négatifs, on en revient toujours là. On ne peut pas les éviter, mais on peut peut-être les limiter. Donc ça, c'est le premier soupçon. Est-ce que finalement, l'illusion, le mensonge, l'apparence, n'ont pas plus de valeur que la volonté de vérité à tout prix, qui, elle, risque d'être destructrice. Alors, ce qui fait la valeur des choses bonnes ne vient pas nécessairement de leur pureté, mais parce qu'elles sont liées, wesensgleich, essentiellement à l'apparence et au mal. Par conséquent, non seulement, ça c'est la deuxième hypothèse, non seulement l'apparence ou l'illusion aurait plus de valeur pour toute vie, mais ce seraient elles, ces valeurs apparemment négatives, qui donneraient leur valeur aux choses bonnes. Voilà le paradoxe. Peut-être que ce que nous repoussons, c'est ce qui est nécessaire à la démarche de la vérité. Est-ce que le bien ne surgirait-il pas du mal ? Et donc, est-ce que pour faire le bien, nous n'avons pas besoin du mal ? C'est évidemment un propos tout à fait hérétique, tout à fait scandaleux. Mais je vais prendre un exemple chez Machiavel. Nietzsche avait un peu lu Machiavel. Mais dans Le Prince, Machiavel dit des choses en effet scandaleuses. Il dit « Le bon prince doit accepter de paraître méchant, de paraître mauvais. » Le bon prince doit accepter de paraître mauvais. Et il prend l'exemple, très intéressant, vous savez que Machiavel est un Florentin, de l'Arno, qui est le petit fleuve qui traverse Florence. Quand vous allez à Florence, vous voyez ce petit fleuve tranquille, vous dites c'est merveilleux, quelle belle rivière tranquille, etc. Or, il se trouve que de temps en temps, il y a des crues énormes qui détruisent le paysage environnant, les campagnes, et qui font des ravages terribles dans Florence. Il y en a eu quelques années. Le bon prince, c'est celui qui va prévoir les crues qui arrivent tous les 10 ans. Et il va donc construire des barrages, des canaux en amont. Mais construire des barrages et des canaux, ça coûte cher. Donc, il va monter les impôts de Florence. Les Florentins, en ce sens, qui sont bien humains, n'aiment pas qu'on voit les impôts monter. Donc, ils disent, mais ce prince, c'est un mauvais prince, qu'est-ce qu'il va bâtir ? Ça sert pour arroser ses copains des travaux publics, c'est un mauvais prince. Parce qu'il construit tous ces édifices inutiles, et c'est nous qui payons. Seulement un jour, il arrive des crues. Et les barrages tiennent et ne détruisent pas les récoltes ni la ville. Changement d'opinion, les Florentins disent « Ah, nous pensions que nous avions affaire à un mauvais prince. » Mais en réalité, c'est un bon prince. Vous voyez ? Donc, il faut qu'il fasse des choses jugées mauvaises, et qui le sont peut-être, pour atteindre un bien que les gens ne voient pas. Eh bien, je crois que ça, c'est assez Nietzsche. Alors, évidemment, chez Machiavel, il y a aussi l'idée, pas seulement de construire des barrages, mais l'idée de l'armée, par exemple, parce que Milan peut venir attaquer Florence, donc il va falloir créer une armée, la doter d'armements coûteux, et les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font tous ces militaires dans les casernes, n'est-ce pas, jouer aux cartes, c'est inutile. Eh oui, mais le jour où Milan vous attaque, vous avez la riposte. Il y a aussi chez Machiavel, évidemment, l'idée que quelquefois, lorsque le prince arrive au pouvoir, il faut faire tomber un certain nombre de têtes. Ce que Nietzsche ne dirait pas. Enfin, Machiavel le dit. Et oui, parce que les Borgias ont besoin de faire tomber quelques terres pour assurer leur pouvoir. Le problème, alors qu'on retrouverait Nietzsche ici, ce qu'il va reprocher à Borgia, je parle toujours de Machiavel, c'est qu'après avoir fait tomber quelques têtes, c'est-à-dire avoir ramené l'ordre, ce qu'on attendait de tout bon prince, il va continuer à faire tomber des têtes. Voilà, il y avait un moment où il fallait faire tomber des têtes, c'est un peu comme dans l'Ecclésiaste, et il y a un moment où il ne faut plus faire tomber de têtes, parce que sinon les gens prennent peur, et ils vont faire tomber la tête du prince. Donc, Borgia, vous voyez, apparemment est un bon prince, parce qu'il fait tomber des têtes et qu'il ramène l'ordre, mais en réalité est un mauvais prince, parce qu'il continue à faire tomber des têtes lorsque ça n'est plus nécessaire. Voilà, la perspective a changé. Donc au début, il fallait faire tomber des têtes, mais 4 ans après, le calme est revenu, il ne faut pas faire tomber de tête. Bon, alors je crois que cette histoire de Machiavel nous fait un peu comprendre ce que Nietzsche veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un mélange des deux. L'apparence trompeuse est nécessaire. Alors, il faut bien faire attention que Machiavel, pas plus que Nietzsche, d'ailleurs, nous dit « le prince doit être mauvais ». Le prince doit chercher le bien de la cité. Mais pour atteindre le bien de la cité, il faut prendre des décisions apparemment impopulaires et jugées mauvaises. Le bon prince, il accepte ça. Le vrai prince, il accepte ça. Le mauvais prince, il va aller dans le sens de la démagogie, il va prendre toutes les mesures que le peuple veut, et le jour où il y a l'Arno qui arrive, c'est le désastre. Ça, c'est le mauvais prince. Alors, on pourrait dire la même chose, me semble-t-il. Bon, je ne sais pas si cet exemple m'éclaire, je ne sais pas si vous éclaire vous-même, pour comprendre la pensée de Nietzsche. On pourrait prendre l'exemple aussi de la science, de la recherche scientifique, à laquelle Nietzsche pense très souvent, évidemment la science de son temps. Il y a que là encore, il rompt par rapport à un rationalisme scientifique, un rationalisme de la connaissance, selon lequel la connaissance scientifique ne fait que cumuler des vérités. Plus on avance, plus on va vers la vérité. Plus s'éteint par conséquent le monde des ténèbres. Alors ça, je crois que là, à nouveau, c'est tout à fait anti-nietzschéen. Et on pourrait dire qu'un homme comme Bachelard, vous avez peut-être entendu, qui était longtemps ce nom, qui était longtemps professeur en Sorbonne, Gaston Bachelard, et qui a beaucoup réfléchi aux sciences, et qui était assez proche de Nietzsche par beaucoup de côtés, a dit une chose qui est d'ailleurs reprise par Popper, qui est un Américain, Popper, à savoir que on n'avance en science que d'approximation en approximation, c'est-à-dire d'erreur en erreur. N'est-ce pas, la grande idée de Popper, c'est la falsification, c'est-à-dire, hein, Popper, mais qui est un disciple de Bachelard, par certains côtés, bien que Bachelard soit évidemment très très différent de Nietzsche, mais cette idée qu'il n'y a pas de vérité scientifique absolue, il n'y a que des approximations. Ce qu'on tient pour la vérité aujourd'hui, demain nous apparaîtra comme une approximation, comme une erreur, comme... voilà. Donc la science n'avance pas vers plus en plus de progrès, d'illumination et de transparence. Elle substitue, je parle le langage Nietzsche ainsi, une illusion à une autre. Mais une illusion plus utile, dirait Nietzsche, n'est-ce pas, qui vous explique mieux les choses, qui est plus pertinente. Jusqu'à ce qu'on découvre une autre illusion, c'est-à-dire une autre hypothèse plus pertinente que la première, que l'antécédente, et qui va la renvoyer effectivement à la poubelle. Ben oui. Bon, je crois que c'est assez ça. Il n'y a jamais de vérité pure, mais des approximations. Et est-ce qu'on est capable de vouloir l'approximation? C'est-à-dire le scientifique qui dirait, ben voilà, ma découverte, c'est la découverte ultime, il n'y a plus à chercher. Ben celui-là, il est dans l'illusion, dans le préjugé, pour parler comme le texte. C'est le bon scientifique dire, ben écoutez, je vous apporte une hypothèse, elle est féconde, mais j'en reconnais les limites. Ah, la science moderne, c'est ça, c'est de reconnaître les limites de la connaissance contre l'idée d'une progression. Voilà, alors je pense que Nietzsche, dans les textes que nous voyons ici, qui paraissent scandaleux, a eu une grande influence sur ses épistémologues, Bachelard ou Popper, n'est-ce pas? Le tranchant des textes peut nous paraître aberrant, hein, quand on lit ça, le mal nécessaire ou bien, on dit mais qu'est-ce que cette histoire, le mensonge nécessaire à la vérité, mais si on rumine ça, on s'aperçoit que c'est pas un choix pour le mal et l'erreur, c'est l'idée que nous ne pourrons pas nous dépêtrer de l'illusion. Alors, vous avez vu l'autre jour qu'il parle des mystiques. Vous avez peut-être lu les demeures de Thérèse d'Avila, lorsqu'elle arrive, si je me souviens bien, j'ai pas regardé le texte, lorsqu'elle arrive à la 36e demeure, c'est-à-dire la demeure, elle avance vers Dieu de demeure en demeure. Et la 36e, c'est la ultime, elle est tout à fait, c'est, je veux dire, proche de Dieu. Et tout d'un coup, la madre se dit, oui, j'ai avancé jusque-là, est-ce que je ne suis pas dans une totale illusion? 36e demeure. Est-ce que je ne suis pas une totale illusion? Et elle dit à ses filles, ah oui, attention, peut-être que vous êtes toujours dans l'illusion. Mais vous ne pouvez pas vous passer de cette illusion, parce que sinon vous vous croiriez Dieu lui-même. Donc l'illusion vous maintient les pieds sur terre. 36e demeure, vous êtes encore peut-être très loin. Vous voyez, ça je crois que c'est très fécond, parce que ça veut dire à la novice, ne croyez pas tout de suite que vous avez des extases, hein, que vous avez le cœur percé, etc. Doucement, doucement. Et même si vous avez des extases, vous restez les pieds sur terre. Hein. Bon. Parce que peut-être que vous êtes dans l'illusion. Acceptez ça. Voilà. Ça c'est une sagesse. On n'est jamais dans la vérité pure. Alors, dernier point, philosophie du peut-être. Dans la dernier versant. Mais qui se soucie de ces dangers peut-être? Pour cela, il faut attendre la venue d'une nouvelle espèce de philosophe. Bon, c'est ce thème un peu rémanent dans la part de la bien et le mal en particulier. Bon, on n'est donc pas dans une philosophie du scepticisme, une philosophie non plus du doute systématique, mais je dirais une philosophie qui croit assez en la vérité pour savoir qu'on n'a jamais qu'on n'arrive jamais à la posséder. Il croit assez à la vérité pour savoir qu'elle nous dépasse toujours, qu'on l'aura jamais cernée en totalité. Bon, Thérèse d'Avila, assez novice. Ne croyez pas que parce que vous avez des spasmes devant le Saint-Sacrement, que vous êtes déjà dans la vision glorieuse. Hein, restez bien les pieds sur terre. Voilà. C'est parce qu'on on veut la vérité qu'on sait qu'on ne l'atteint jamais. Parce que la vérité, c'est toujours, cette recherche est un risque. Est un risque. Le scientifique sait bien qu'il peut se casser la figure, qu'il peut se tromper dans ses hypothèses, que ce qu'il a découvert et qu'il satisfait est peut-être totalement faux, et qu'il va y avoir un collègue qui va lui dire « ton truc tient pas la route ». Mais il faut prendre le risque de la vérité. Alors, nous verrons la prochaine fois qu'il y a un autre aspect plus redoutable avec Schopenhauer, c'est que si la vérité est un risque, parce que je peux toujours me tromper, parce que je peux jamais l'atteindre, il y a un plus grand risque que Nietzsche ne dit pas ici, mais qu'il dit ailleurs, c'est que la vérité n'est pas nécessairement belle à voir. La vérité n'est pas nécessairement belle à voir. Elle est peut-être même laide, ou elle est peut-être même horrible. Voilà un autre préjugé des philosophes, n'est-ce pas ? C'est que la vérité est belle et bonne, hein ? Le bien, l'un, la vérité se conjuguent. Aux yeux de Nietzsche, et nous verrons ça un peu plus la prochaine fois, c'est peut-être pas si certain que ça. Mais je n'en dis pas plus pour le moment. Il me semble que le propos que nous avons lu là, dans ce paragraphe 2, nous éclaire déjà sur un certain nombre de concepts nietzschéens fondamentaux. Puisqu'il n'y a pas de vérité définitivement acquise, puisqu'il faut toujours la chercher à nouveau, je crois qu'on est déjà au bord du thème de l'éternel retour du même. Il faut, c'est le rapport du temps et de l'éternité, de l'instant et de l'éternité, qu'on trouverait tout à fait illustré dans le Zarathoustra. L'éternité ne peut jamais s'entrevoir que dans l'instant. Et c'est toujours la même chose. Si vous pensez que vous avez d'autant plus accès, si je dirais, à l'éternité, que vous éliminez l'instant, vous tombez dans le vide. On ne peut atteindre l'éternel que dans le temps et dans l'instant. Mais attention, on peut faire une fausse éternisation de l'instant. On peut figer l'instant sur lui-même en croyant qu'il est éternel. C'est toujours l'aspiration des poètes ou des amoureux. Figer l'instant, non. Il faut vouloir à nouveau l'instant et à nouveau l'éternité dans un instant qui sera le même et jamais le même. Éternel retour du même qui n'est jamais le même. Donc, il faut toujours vouloir la vérité, mais sans prétendre que dans l'instant où je crois l'apercevoir, je l'ai atteint en son fond. Il faut la vouloir à nouveau. Éternel retour du même. C'est évidemment un propos tout à fait étrange et déstabilisant, mais ce oui à l'éternité, puisque c'est ça le Zarathoustra, ce oui à l'éternité, il passe toujours par l'instant, à moins de vouloir éterniser l'instant, ou évacuer l'instant, ce qui n'est pas possible. Je dirais que ça nous donne une première approche de cette idée d'éternel retour du même, première approche. Mais je crois aussi l'avoir signalé, ça nous donne une certaine idée aussi de ce qu'il appelle la volonté de puissance. Il faut une grande puissance de la volonté pour que celle-ci ne se fige pas sur elle-même, qu'elle puisse se vouloir à nouveau. La volonté de puissance n'a rien à voir avec la domination sur autrui. Elle est d'abord domination de soi, relative. Évidemment, dans la perspective nietzschéenne, nous aurons toujours, et je dirais heureusement, des désirs et des passions. Si on arrivait à haïr le moi au point que nous n'ayons plus de désirs ni de passions, ben ce serait effectivement la mort. Il faut qu'on ait des passions. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà le problème. Qu'est-ce qu'on fait de ces passions ? Alors, pour pouvoir vouloir le retour du même, il faut beaucoup de puissance. Bon, si le mot puissance nous agace, disons il faut beaucoup de force. Il faut beaucoup de détermination de soi par soi pour ne pas se laisser entraîner, soit au rien, soit à l'éternisation de soi. Se vouloir positivement, c'est accepter de se vouloir toujours à nouveau. Ben, ne pas croire qu'on a atteint l'idéal ou qu'on a étouffé les passions. La grande illusion de l'ascéticisme que Nietzsche ne cesse de poursuivre, à juste titre, faire croire qu'on a atteint l'idéal, qu'on est purgé, ça c'est une illusion majeure. Alors, bon, la volonté de puissance, ça n'est pas la domination sur autrui, c'est la domination sur soi et l'aptitude au renouvellement de soi. Bon, j'avais pris l'autre jour l'exemple du danseur, qui est un exemple parfaitement nietzschéen. On dirait que le danseur est une belle image de la relation, si on parle en termes théologiques, de la liberté et de la grâce. Ou pourrait-on dire en termes nietzschéens, de la volonté de puissance. Le danseur, pour danser avec grâce, comme on le voit évoluer sur une scène, il faut qu'il ait fait un travail considérable sur lui-même. Il faut qu'il se soit imposé, et qu'il s'impose tous les jours, une discipline féroce. Parce que s'il se prélasse dans un fauteuil, qu'il ne fasse plus d'exercice, il va se paralyser. C'est à condition qu'il ait justement dominé son corps autant que possible, et il ne le dominera jamais totalement, qu'il pourra danser avec grâce, qui sera comme un surplus de l'effort. S'il n'y a pas d'effort, il n'y aura jamais de grâce. Et la grâce ne se substituera jamais à l'effort. Et on retrouverait les problèmes du jésuitisme, n'est-ce pas ? Le janséniste pense que la grâce va vous foudroyer. Je caricature. L'exemple du danseur nous montre que la grâce, elle vient comme un surcroît, si vous avez fait les efforts voulus. Volonté de puissance. Bon, la grâce du danseur, elle se paye à un grand prix. Le pianiste, tout ce que vous voudrez, le grand scientifique, ça paraît aller de soi, danseur, on dit, c'est magnifique, il est comme il saute. Oui. Mais, vous ne voyez pas l'envers du décor, c'est que tous les matins, il doit faire des barres parallèles, il doit faire de la gymnastique, etc., comme le pianiste, tous les matins s'exerce. Voilà, volonté de puissance sur soi-même pour être créateur de quelque chose de gracieux. Alors, je dirais que ça... Ce que nous venons de dire nous met aussi à deux doigts de l'analyse du nihilisme. Le nihilisme, c'est justement la volonté de vérité à tout prix, qui étouffe le sensible, qui étouffe la temporalité, et qui est une volonté de mort par élimination de tout ce qui permet à la vérité d'être ce qu'elle est. N'est-ce pas ? On pourrait dire la même chose quand le danseur va littéralement se tuer. S'il estime qu'il a acquis la grâce au point qu'il n'a plus d'effort à faire. Eh bien, il est fini. S'il pense que, parce qu'il a atteint les Oscars, etc., les applaudissements de la foule, il n'a plus à faire d'effort, la grâce ne suivra pas, il va se paralyser, il va s'ankyloser, il va rater ses trucs. Donc, mort. Croire qu'on a atteint l'idéal, c'est la mort. Nihilisme. Or, justement, la société moderne croit volontiers qu'elle a atteint l'idéal. La démocratie, la liberté, les droits de l'homme, etc., qu'elle a plus à se battre pour. Bon, tout ça paraît un peu mélangé, mais je crois que ça rejoint le même thème de, par-delà bien et mal, du refus de se préjuger d'une antinomie radicale essentielle des valeurs. Voilà, nous nous retrouvons jeudi prochain. Et nous prendrons les textes 20, que j'avais donnés au début, je les redis, 19 et 21, et puis je prendrai un peu de temps à cette occasion pour parler quand même de Schopenhauer, ce qui nous permettra quand même de situer un peu Nietzsche dans l'histoire de la philosophie. Voilà, bonne soirée. Oui. Non, parce que c'est les vacances de la Toussaint. Hein. Le 30 mai après, on reprend normalement tous les jeudis jusqu'à Noël.